I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Mise à mal.
Dégâts et désengagements.
Pourquoi on prend toujours cette voix alors que c'est pas du tout notre voix du podcast?
Après on parle comme ça. Mais je sais pas. Je sais pas Florian.
Mais justement ça crée un bon contraste.
Tu es très bon, très bon.
Que vais-je faire? Laissez-moi les tétons.
Et ben on l'a notre jingle.
J'ai pas les coudes sur la table déjà, ça serait pas grave.
Oh, ça c'est un chouette nom de podcast, les coudes sur la table.
Ah.
Ça serait la sociologie du genre, non? Salut Théo.
Salut Flo.
Salut Yann.
Salut Yann.
Salut à vous deux.
J'ai oublié dans quel ordre on faisait les choses.
Je sais plus non plus. De quoi on parle aujourd'hui?
C'est ça qu'on fait?
De quoi on parle aujourd'hui, Flo?
Ok, alors aujourd'hui on va parler de l'engagement et le titre que vous aurez sur l'appli sera mieux que ça. Parce qu'on aura travaillé depuis.
Ou pas, parce que peut-être qu'on aura la flemme.
Et on va parler de l'engagement principalement amoureux, mais on reste plus ou moins ouvert. Et en gros, l'épisode sera structuré globalement en deux parties, mais la structure étant notre fort, on peut s'en libérer à tout moment, n'est-ce pas? Sur l'engagement, en gros, pourquoi on s'engage dans un couple? Qu'est-ce que ça veut dire de s'engager alors qu'en fait on signe pas un contrat et que ça sort un peu de nulle part, de s'engager assez formellement? Et le deuxième, sur les engagements un peu plus anodins qu'on peut avoir eu dans nos vies.
Voilà, les engagements qui n'ont pas l'air d'être des engagements au premier coup d'œil, mais qui en fait le sont.
Et en fait, qui sont pleins de sens.
Waouh, parce que nous, on aime le sens et les engagements, et le sens de l'engagement.
Et pour parler de ça aujourd'hui, donc on a Yann, et donc Théo, je te laisse introduire l'invité en tout bien tout honneur.
Bonjour Yann.
Bonjour Théo.
Et Yann, c'est un collègue, qu'on s'est rencontré il y a maintenant 3 ans et demi déjà.
Déjà.
Voilà, et du coup Yann, comment te décrire, déjà est-ce que tu pourrais nous dire... Qu'est-ce qu'on s'attend pas de toi au premier coup d'œil?
Alors, j'ai longtemps réfléchi à cette question. Hier, j'étais dans le train pour revenir de Montpellier. Et je me suis dit que j'étais un mec assez banal, en fait, que j'avais rien d'exceptionnel. Et vlatipa, que je reçois un texto de mon entraîneur. Et mon entraîneur de quoi? De trampoline. Et en fait, j'adore le trampoline et sauter en général. J'adore plonger.
Sauter en général, c'est trop bien comme passe-temps.
Ouais.
C'est un truc que tu peux trop satisfaire à la maison.
Ah ouais, non mais... C'est être en lévitation, sauter, être dans les airs en général.
Est-ce que quand tu t'énerves avec ta meuf, tu dis « Bon, attends, 2 secondes, là, faut que je me calme » et tu sautes sur place?
Ouais, sur le lit plutôt.
je suis colère là, en rebondissant.
Comment perdre un...
Je fais 2 saltos et tout va mieux.
Comment perdre la face pendant une dispute?
Laisse-moi sauter.
Alors, on dirait vraiment ta mère quand tu fais ça. Boing, boing.
Non, mais elle m'a acheté un petit trampoline depuis.
Sérieux?
Non.
Oh, est-ce que tu regardes les vidéos des petites chefs sur YouTube qui sautent partout?
Ouais, je vois les vidéos, mais je t'avoue que c'est plus des vidéos, moi, de plongeon ou vraiment de trampoline. Et là, je peux y passer des heures.
Des trucs de pro, quoi.
Ah, ok. Ouais. On n'est pas sur du loisir, quoi.
Mais c'est... j'aime bien les petites chèvres aussi. J'aime plus celles qui escaladent les barrages ou les falaises. Ça m'impressionne. J'ai l'impression que l'image va se retourner un moment pour nous montrer que c'est faux, quoi.
Alors, puisqu'on est sur ce sujet-là de podcast qui est donc les chèvres, moi, mes chèvres préférées, c'est celles qui sont tétanisées quand on leur fait peur.
Ah, j'ai jamais vu ça, mais c'est drôlement méchant.
T'as jamais vu ça, mais non. C'est les vidéos les plus drôles d'internet, c'est ces chèvres-là.
Ah ouais.
Parce que c'est des petits troupeaux qui marchent tranquille, et d'un coup, il y a un enfant qui arrive et qui fait ah, et toutes les chèvres, elles tombent, mais comme des dominos. C'est génial. Et
elles sont mortes.
Et mais non, c'est un réflexe de tétanie parce qu'en fait, c'est des chèvres d'altitude, et du coup, si elles trébuchent, du coup, elles ont un peu peur, et elles se tétanisent, et comme ça, elles tombent en bloc, et elles se cassent pas, elles se tordent pas les membres, et elles se cassent pas les pattes.
Ah, elles essaient pas de se rattraper.
Ouais, c'est ça.
C'est marrant.
Mais du coup, elles se cassent le dos ou même pas?
Bah, elles sont vraiment tendues, quoi. Tendues.
J'imagine mal un chat se dire, allez, je tombe, je me fige, on verra comment ça va.
Oui, mais c'est pour ça que c'est des chèvres.
Des chèvres.
Des chèvres.
Miais. C'est les animaux bipolaires.
Et c'est marrant parce que du coup, pardon. Je suis officiellement le meilleur, enfin, pendant ce court laps de temps, je suis le meilleur imitateur au monde de chavre, vu que ça n'existait pas avant.
Ouais, ça, tu peux pas savoir.
Hein. Félicitations.
Bah, il y en a pas.
Je te trouve un peu présent, monsieur.
Bah, trouve-moi un imitateur de chavre qui fasse mieux que moi, là, tout de suite.
Ok, j'y vais. Yeah. Ah là, tu vois ce que j'ai trouvé.
Oui, parce que c'était pas Florian, c'était quelqu'un qui sortait du
placard. C'est le premier résultat YouTube. Hein.
C'est une page Wikipédia.
Après le remix de Taylor Swift. Fort bien.
Très bien. Et tu as oublié de me relancer sur le nom des auditeurs, c'est à mon tour.
Mais heureusement que t'es là, alors merci de me relancer pour que je te relance. Théo, comment as-tu nommé notre communauté aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait les appeler les applaudiqueurs.
Oh, voilà. En référence à l'épisode 0.
Exactement.
Est-ce que vous nous écoutez depuis les épisodes 0 ? Les épisodes 0.
Les vrais applaudiqueurs nous écoutent depuis l'épisode 0.
Ouais.
Voilà.
J'ai pas écouté le précédent, mais c'était quoi le petit sobriquet ?
C'était les mises à malus.
Ah si, je l'ai entendu.
Ouais. Ah, tu l'as entendu. Ouais,
entre moult autres blagues qu'on a fait sur le nom de la communauté qu'on n'a pas mis.
Ouais, c'est parti en mise à l'anus.
Exactement.
Ah non, ça c'était le jingle.
Ça c'était bien. Ah, non, c'était dedans. On a été très anal dans cet épisode. C'est
dans beaucoup d'épisodes finalement.
Pas tant que ça.
Est-ce que si on fait un épisode sur la sodomie, on sera très vaginal par esprit de contradiction.
Et quel est le cliché qu'on essaie de mettre à mal aujourd'hui, Théo ?
Ah, mais alors, c'est bien. Mais alors, est-ce que c'est vraiment un cliché ? Est-ce que... j'ai décidé, c'est bon, j'ai vite fait mon...
Je te laisse discuter tout seul.
Oui, tout à fait. Alors, Théo, qu'est-ce qu'on en pense ? Je pense qu'un des clichés qu'on essaye de mettre à mal, c'est que l'engagement, au sens des grandes étapes clés de la vie conjugale, à savoir, d'instinct, je dirais, emménager ensemble, se marier, avoir des gosses, sont des étapes incontournables et structurantes et nécessaires au couple pour être, entre guillemets, un bon couple. Voilà.
C'est bien vu et je complète avec sur peut-être les engagements anecdotiques, c'est que le cliché, c'est que, en tout cas celui que j'ai dans la tête, c'est que les hommes ont du mal à s'engager. C'est un trait peut-être qu'on assimile plus aux femmes, le fait de s'engager trop vite ou plus vite que les hommes. Je pose ça là, c'est un cliché, voyons voir ce qu'il en est.
Très bien. Alors, est-ce que vous voulez, un de vous deux peut-être, ou moi-même, veut prendre la parole et parler de son rapport à l'engagement ?
Alors moi, déjà, je parlais de ma situation pour poser le décor, mais donc ça fait 5... J'ai souvent eu plus des relations longues que des aventures ou des histoires. Donc plus propice à l'engagement. Et donc là, ça fait 5 ou 6 ans, je sais jamais, que je suis avec ma meuf. Et là, il y a les grandes questions de l'engagement qui commencent à avoir dans ces périodes-là. Donc, les grandes qui sont le mariage, parce qu'elle, elle y croit dur comme fer et ça, elle tient vraiment à ça. Et encore le niveau d'au-dessus, les enfants.
C'est génial, les petits loulous.
Voilà.
On les adore et on embrasse tous les loulous et les poupous qui nous écoutent.
Voilà, pour tous.
Et pour préciser juste, tu peux nous dire ton âge, parce que c'est assez...
Alors là, j'ai 32 ans.
Voilà, mais dans ta tête, t'en as 18. Et ça, c'est beau.
Ouais.
Change rien.
Enfin, un jour 18, un 48,
La vie nulle.
Je suis un peu schizo. Ouais, mais donc voilà, je fais un grand moment de la relation qui fait flipper, mais en même temps qui demande un peu d'engagement pour aller plus loin et qui est quelque part aussi excitant et... pour poser encore plus les décors, c'est quand même une meuf que j'aime beaucoup et avec qui je me vois largement faire ma vie, qui correspond en tout point à plein de mes attentes, et je la vois très bien comme la mère de mes enfants. Mais c'est pas pour autant que je suis encore prêt à franchir le cap.
Ce qui n'est pas son cas à elle, du coup, qui est plutôt décidée.
Voilà. Et en fait, ouais, il y a une pression sociale aussi qui avance, qui était, il y a des contrats un peu que tu poses avec ta meuf où elle te dit, elle a 31 et elle te dit, bon bah, il y a aussi mes copines et je comprends tout à fait qu'elle veut vivre ce moment avec ses copines et être enceinte en même temps que ses copines et avoir un enfant en bas âge en même temps que ses copines, tout ça je comprends tout à fait, moi aussi d'ailleurs c'est un truc, que j'ai envie, et là, ça pond dans tous les sens. Donc là,
parce que ses copines sont des poules.
Voilà, le compte à rebours est lancé, mais bien, quoi.
Ok, et du coup, toi, tu disais, elle y croit dur comme fer, mais...
Sur le mariage.
Ouais, sur le mariage. Et toi, quel est ton rapport au mariage ?
Alors, moi, originalement,
Je veux pas dire que j'y crois pas, mais ça me touche pas. Pour moi, c'est quelque chose d'artificiel. J'en ai vraiment pas besoin. Après, mon contexte, c'est aussi que mes parents sont mariés quand moi, je devais avoir 12 ans. Et c'était plus par souci administratif pour les impôts plutôt que vraiment pour symboliser ou pour signer un contrat de mariage, quoi. Parce que, enfin, ils sont toujours ensemble. Et ils s'aiment toujours, je pense. Mais voilà, ils n'avaient pas besoin de ça, mais ils l'ont fait quand même. Donc, je n'ai pas ce modèle-là de « il faut absolument que je me marie, ça fait partie de, d'une des étapes clés dans ma vie. » Je n'ai pas besoin de ça, de signer ce contrat pour m'installer dans ma nouvelle vie et pour continuer à construire quelque chose, quoi.
Sachant qu'en plus, c'est assez fou que t'es... Enfin, généralement, ceux qui ne croient pas au mariage ont justement des parents divorcés, ce qui n'est pas ton cas. Et je voulais juste rebondir en enchaînant sur le mariage, justement. Effectivement, le mariage, c'est un bout de papier. Mais dans le cadre de ta copine, du coup, est-ce que c'est un mariage... En fait, il y a aussi cette double question du mariage administratif ou du mariage aussi religieux, qui a un autre sorte d'engagement, qui, lui, pour le coup, est vraiment, dans toute objectivité, inutile, en fait.
Oh. Non mais oh bah, objectivité. Ah bah. Que alors toute là, objectivité non, mais alors... que je chie dessus.
C'est objectif. Marie-Joseph, qu'est-ce que j'entends?
Non, qui est comment dire, autant le mariage a une valeur juridique s'il est réalisé en mairie, autant le mariage a une valeur qui n'est donc pas juridique, qui n'est pas une valeur citoyenne, on va dire, qui peut avoir une autre,
selon la loi, quoi.
Une autre façon de une autre sorte de valeur aussi, mais disons que demain tu peux avoir tous les arguments du monde pour un mariage civil parce qu'effectivement il y a des contraintes. Le mariage religieux, s'il y en a un des deux qui se sent pas religieux, c'est très dur pour l'autre de le convaincre, à part de le prendre par les émotions en lui disant bah moi ça me ferait plaisir.
Il y a aussi, moi je vois, j'ai l'exemple avec du coup le frère de ma meuf qui s'est marié aussi avec quelqu'un qui ne croyait pas forcément en Dieu, ne voulait pas se marier religieusement, mais tu fais aussi tout un parcours avec le prêtre que tu choisis pour qu'il te fasse un peu de pédagogie et qu'il t'emmène vers un peu le chemin de Dieu. Il y a un peu cet accompagnement et qu'elle a trouvé très intéressant au final, même si elle se sent toujours pas catholique, mais il t'aide aussi à passer cet engagement-là d'une façon, après ça dépend du prêtre, mais d'une façon qui peut être très douce dans ce cas-là en tout cas.
Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on manque de rituels. On a oublié que le mariage, c'est pas juste une cérémonie, on se bourre la gueule, le lendemain on est marié. C'est aussi tout un cheminement rituel et je pense qu'on a un peu perdu ça, parce que la religion, quand même, s'est appliquée à garder ces questions de rituels et d'accompagnement. Je pense que des fois, on a besoin d'être accompagné. On nous a lâché comme ça, genre, bah, une division de l'État et de la religion. Démerdez-vous maintenant, vous mariez tout seul. C'est sur vos épaules que repose l'engagement. Ça peut être des fois un peu rude pour les gens, quoi.
C'est vrai, et en même temps, est-ce que c'est pas juste un changement de rituel? Parce que même si tu changes complètement les codes, une cérémonie avec tes amis, même, c'est très scripté, c'est le vin d'honneur, c'est la cérémonie à la mairie, c'est la première danse, c'est toutes ces choses-là. C'est juste une nouvelle forme de rituel, mais qui est plus acquis dans les codes sociaux que oui. Écrit dans un livre.
Je suis d'accord, mais c'est parce que Yann parlait de l'accompagnement par le prêtre, et c'est vrai que ça, on a un peu perdu, je pense. Et c'est intéressant le rapport au mariage, parce que pendant que t'en parlais, Yann, je me suis dit, mais en fait, moi, mes parents, ils se sont mariés quand j'avais 17 ans, après 30 ans de vie commune, et ils se sont séparés l'année d'après.
Ah ouais, c'était le début de la fin.
Ils n'ont pas tenu le coup, quoi. Et aujourd'hui, ils sont de retour ensemble, mais ils ont hésité à divorcer pour se remettre ensemble, mais ça leur a foutu une pression de malade, quoi. Donc c'est assez rigolo.
Attends, mais du coup, ils ont divorcé?
Non, ils n'ont pas divorcé, ils se sont séparés pendant des années. Ils se sont remis ensemble, ils sont restés mariés. Et maintenant, ça va mieux, mais ça leur a foutu un coup de se marier au niveau de l'engagement.
Ouais. Mais il y a un proverbe, alors je ne sais pas si je vais bien le sortir, mais le mariage, c'est comme le siège d'un château fort. C'est ceux qui sont à l'intérieur veulent en sortir, et ceux qui sont à l'extérieur veulent y entrer.
Oh, c'est beau.
Et y a un peu de ça. Et moi, c'est vrai que j'ai aussi cette sensation-là où j'ai l'impression que on va mettre un peu une cloche de verre sur un amour qui est normalement un peu comme une rivière sauvage que t'as pas envie de condenser ou de canaliser. Et là, c'est pour ça que moi, c'est un peu artificiel quelque part, je trouve, d'essayer de canaliser quelque chose qui est très beau.
Et ça fait un peu genre, on fige dans l'instant notre amour au pointé, et je comprends que ça bloque les perspectives d'évolution, enfin, ou même de déchirement, tout simplement, à cause de ça.
Mais ça aurait été intéressant qu'on fasse ça, qu'il y ait ma meuf aussi dans ce podcast.
Eh bien, elle est là.
Bonjour.
Je sais pas d'où elle peut sortir, mon appart est pas très grand quand même.
Mais parce que elle te répondrait au contraire, non, c'est justement le point de départ d'une nouvelle vie. Et c'est comme un peu elle a l'excitation de redémarrer à zéro et de, comme si elle franchissait la porte d'une nouvelle pièce vers un autre inconnu, quoi.
Et ben on pourra tout à fait faire la version 2 de cet épisode en tant que droit de réponse avec ta copine, avec un grand plaisir. C'est une invitation que je lance.
Yann vient de faire le signe, mais qui balance. Ne l'invitez pas. Je répète, il a dit ne l'invitez pas.
Yann a fait semblant de se pendre.
Je t'aime, je t'aime.
Mais
le Babtou,
il a changé de voix.
Putain, je t'aime, je t'aime.
Si
je peux rebondir, puisqu'on a tous, enfin tous, moi je vais le faire, parler de notre relation au mariage vis-à-vis de l'exemple de nos parents, qui est très intéressant. Moi, j'ai un exemple un peu différent, parce que du coup, quand je suis venu au monde, dans ce beau monde qu'est la planète Terre que j'aime.
T'as trop attendu qu'on applaudisse.
Non, c'est pas mon genre. Et en fait, quand donc je suis venu au monde, mes parents étaient déjà mariés. Par contre, le mariage de mes parents est basé sur de la désacralisation de rites, en fait. C'est-à-dire que à la base, bon, j'imagine que ça c'est la version que raconte un peu mon père. Ça le fait beaucoup rire et je pense qu'il y a un gros fond de vérité, mais que derrière il cache le côté canard, il doit les mettre de côté. Mais en fait, à la base, quand il a demandé ma mère en mariage, ils étaient, il me semble, bon, je peux déformer quelques trucs, mais le gros de l'histoire, c'est qu'ils étaient en train de manger chez, du coup, les beaux-parents de mon père, donc les parents de ma mère, pour ceux qui suivent, bravo.
Wow, ouais.
Et en fait, c'est ma grand-mère, donc qui est pour le coup très croyante, qui a taquiné mon père en lui disant, bah du coup, quand est-ce que vous demandez ma fille en mariage. Et mon père, pour rigoler, pour faire son petit malin, a dit, bah moi je le fais dès que vous nous payez les alliances quartier qui coûtent X milliers de francs. Du coup, elle a dit ok. Du coup, il a épousé ma mère et ils ont eu les alliances quartier. Donc déjà, ça commence comme ça. Et le jour de la cérémonie, du coup, ma mère avait une robe noire.
Ouais, classique.
Classique, la fameuse robe noire de mariage. Ouais. Et mon père, jusqu'au dernier moment, avait prévu de se marier en jogging et en survêtement de sport. Et en fait, c'est son témoin qui lui a dit non, c'est pas possible, et qui lui a filé son costume. Et du coup, il s'est marié avec
un... Il est venu à la mairie avec le jogging.
Ouais, et du coup, il s'est marié avec un costume trop grand qui était celui de son témoin, quoi. Ouais. Et pourtant, ils sont encore aujourd'hui, et du coup, ça m'a appris à prendre du recul. Bah, sur le mariage, sur le fait de, sur les codes du mariage en tout cas, non pas que le mariage en tant qu'institution, mais en tant que le mariage de princesse, tout ça, parce que je pense qu'il y a des mariages qui coûtent des 100 et des 1000 et qui finissent au bout d'un an. Et au final, voilà, c'est cette perception là aujourd'hui. Je pense que j'aurais envie de me marier, pas forcément à l'église, mais je vais y réfléchir pendant l'épisode, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de me marier pour l'instant.
Ah, t'as envie. S'il y a une meuf qui te dit « Moi, j'ai pas envie de me marier », ça te fait un peu chier.
Non. Non, ça va.
Tu mens, du coup, là.
Ça va, mais c'est vrai que si je peux pas avoir ma robe de princesse, je serais un peu déçu.
Avec la collection de nœuds papes que t'as, en plus, c'est vraiment dommage.
Ah putain, la robe... Alors moi, j'ai une robe coquille d'œuf avec un peu de dentelle et un nœud pape.
Ah, t'es super renseigné. Je suis sûr que j'ouvre un onglet à côté de Pornhub, t'as les robes de mariée.
Ouais, je fais les deux en même temps, je passe de l'un à l'autre. Je louche.
Tu regardes des pornos juste en robe de mariée.
Oui, bah elle est déjà blanche.
Elle est déjà coquille d'œuf.
Elle aime même l'odeur.
C'est marrant, parce
qu'on prend les sujets les plus doux et les plus beaux du monde et on arrive
mais
à...
On essaye de faire. Mais...
Cette angoisse de l'engagement. Mais c'est marrant parce que tes parents sont iconoclastes. Du coup, je comprends mieux pourquoi t'es un petit punk.
Ouais. C'est vrai que ton petit côté artiste ressort beaucoup plus après cette histoire.
Merci beaucoup.
Et ce que tu disais sur les gens qui mettent des 1000 et des 100 pour faire leur cérémonie de mariage et que ça se rompe peut-être beaucoup plus vite. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui fait que le mariage va tenir. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'investissent pour réaliser un fantasme qu'il aurait hérité des injonctions sociales, quoi, qui est diffus. Et quand ils se rendent compte qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait, mais que ça tient toujours pas, que leur couple tient toujours pas, même s'ils ont passé le meilleur jour de leur vie, qu'on est parti aux Bahamas, et après, ils se retrouvent comme des cons parce qu'ils sont pas réappropriés leur histoire de couple et ça, c'est fini.
Mais il y a un côté aussi, j'ai l'impression que quand tu dépenses énormément pour ton mariage, c'est que c'est un mariage que tu fais pas pour toi en premier lieu, mais pour l'image que t'as de toi.
Ouais, ou pour tes potes. Armen, il va payer open bar, je peux te jurer que...
Ouais, mais Armen, il m'a pas invité à son mariage, donc je m'en fous qu'il paye open bar, de toute façon, c'est pas
tu
mon
coupes
pote.
Pas ma phrase quand j'allais dire que j'ai une gratitude éternelle pour Armen, tu rageras avec lui, t'as son numéro.
D'accord. Non, je...
Hein?
J'ai pas son numéro.
Je te le donnerai.
Ok, parfait, super.
On fera WhatsApp avec lui.
Et du coup, voilà, le mariage, c'est bien, mais des fois, c'est pas bien. D'autres traits d'intelligence pour ce podcast.
Ça partira en côte.
C'est fini là. C'est bon, on a fini. Le
donc on ressort le houmous. Allez.
Non, et du coup, ouais, alors le mariage, un vaste sujet. Mais c'est pas le. En fait, en termes chronologiques, c'est pas le premier engagement qui me vient en tête quand on parle de couple. Et d'ailleurs, toi, Yann, t'en parlais à juste titre. Puisque tu disais, il y a des questions qui se posent d'engagement qui sont le mariage et les gosses. Mmh. Mais pour moi, tu oublies une grande étape qui est structurante, qui est le fait de vivre avec quelqu'un. L'installation. Et ça, tu l'as déjà vécu. De toute évidence, ça t'a pas traumatisé vu que tu vis encore avec elle. Même si tu fais quand même pas mal d'allers-retours à Paris.
Après, elle m'a mis dans les petits souliers. Hein.
Raconte-nous tout.
C'est un appart à Montpellier, sous le soleil, avec la mer à côté.
Et tu payais pas de loyer.
Ah ouais, on a acheté le petit van. Non. C'était une installation où tu gagnais en plus. Hein. C'est pas, tu viens dans le 18e, je vais pas dire où on enregistre, mais...
Ouais,
pour pas que les fans se ruent chez toi.
Non, c'était en même temps, j'allais rejoindre le soleil et mon soleil.
Oh là là. Putain, c'est génial. Si tu veux qu'on fasse des pauses pour trouver d'autres punchlines, tu le dis, hein, y a pas de souci.
Ouais. Moi, je pense que vous devriez arrêter de dire à vos meufs d'écouter le podcast, ça serait beaucoup plus sincère.
Alors, pour arrêter de dire à ma meuf d'écouter le podcast, je pourrais déjà avoir une meuf, ce serait une première étape. Mais merci de retourner le couteau dans la plaie.
Oh, Calimero.
Et moi, elle est pas prévenue, hein, donc on verra après le montage si jamais j'envoie l'URL.
Ah, ça va être la surprise. Moi, je l'enverrai quoi qu'il arrive. Allez, continuons. Oui, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu, enfin, est-ce que c'était une grande étape pour toi, le déménagement?
Non. Après, ça s'est fait, ça s'est fait en douceur. C'était, parce que moi, il faut savoir que je viens de Paris et qu'elle était installée à Montpellier. Et donc, je l'ai fait week-end par week-end. Au début, un week-end par mois, deux week-ends par mois, trois week-ends. Après, on passe la moitié de la semaine, mais pas toutes les semaines. Et là, on est sur, du mercredi soir au dimanche soir. Donc c'est vraiment à tâtons, ce qui me correspond très bien. L'engagement n'est pas non plus trop formel et c'était parfait.
Et c'est vrai, en fait, on a tendance à penser, je trouve que le mariage est plus irrévocable que l'emménagement. Bon, alors qu'un mariage en soi, c'est très révocable, parce qu'il y a des instances de divorce et tout. Et en fait...
Pas de vendu, hein.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que je vois bien que depuis tout à l'heure, hein, c'est
ouais,
vrai. Ouais, chie sur la religion.
Ouais, t'oublies le Seigneur qui nous regarde.
Le Tout-Puissant.
Surtout toi d'ailleurs.
Ouais. Putain, moi il me regarde beaucoup.
Ouais.
Il regarde les Espignols.
Lui, je vais pas le voir de sitôt.
Ouais, non, mais moi, alors j'ai une nouvelle théorie là-dessus, c'est que quitte à aller en enfer, autant en faire le maximum pour avoir une bonne place dans la hiérarchie des enfers.
Ouais.
Genre, tu vises le top.
Mais je crois qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les enfers. Hein. Ça doit être chaotique. Ça doit être la roulette russe, quoi.
Ah ouais, ça doit être le communisme, finalement. le podcast engagé d'un
club. Le podcast libéral.
C'était le communisme. Bonjour Robert.
Merci beaucoup. Putain, j'avais commencé une phrase intéressante, mais je sais plus ce que
c'est. C'est pour ça qu'on doit pas se couper dans la charte. J'ai
mais non,
totalement
mais c'était une blague drôle.
Non, c'était moi qui ai fait une mauvaise blague. C'est
d'accord.
Moi qui ai dévoyé la charte.
Qu'est-ce que je disais à propos... Ah oui, si, alors je sais, c'est bon, j'ai retrouvé tout seul. Donc l'emménagement, je trouve que c'est mine de rien, on se dit ouais bah c'est moins engageant. En fait, au final, moi j'ai connu cette situation pas plus tard que l'année dernière quand j'habitais depuis presque 5 ans avec ma copine de l'époque et on s'est séparés. Et en fait, le déménagement, c'est pas si simple que ça parce que déjà tu cohabites forcément 2-3 semaines avec ton ex qui est donc ta coloc. Sauf que bah y a pas de lit sinon ce serait trop simple. Et derrière tu dois trouver un appart. Et en fait c'est compliqué aussi, même si une procédure de divorce est lourde. Le fait de changer d'appartement, de toi trouver un appart, elle trouver un appart, déménager et tout, c'est quand même un truc lourd en conséquence. Et je pense que d'ailleurs je me suis j'avais avec cette personne là on avait emménagé ensemble très rapidement, genre au bout de 3 mois de relation, peut-être un peu plus, on le projetait de le faire à la rentrée, quoi. Et avec le recul, c'est tellement galère de trouver un appart après, une fois que t'es plus avec ta meuf et tout, que la prochaine, je pense que je vais bien prendre mon temps, tu vois. J'ai appris de mes erreurs d'engagement, entre guillemets.
Après, il y a un truc avec le mariage par rapport à l'installation. C'est que l'installation, à la limite, tu vas pas le crier sur tous les toits. C'est quelque chose qui se fait discrètement. Le mariage, t'invites toute ta famille, tous tes amis. Donc, il y a un parterre de témoins. Quand t'annonces que tu divorces, tout le monde va être au courant. Et il y a plus un côté, je trouve, un peu... honteux qui peut être ressenti plus que l'installation, où au final, bon, bah, c'est beaucoup plus commun de se dire, bon, bah, en fait, je vais habiter tout seul. Ou... Le divorce, c'est quand même lourd. On dirait qu'on a pris un engagement, mais en fait, on sait pas le tenir.
Et d'ailleurs, c'est très drôle ce terme de témoin, en fait. Genre, les gens, ils vont pas te croire. C'est...
Ouais.
C'est genre, ah bah je me suis marié avec machin. Ah ouais, c'est pas vrai, t'as pas de témoin.
Mais parce qu'à la base, c'est un engagement économique, le mariage. C'était vraiment pour pérenniser les richesses dans la famille. Et donc, du coup, fallait qu'il y ait, c'est un contrat, le mariage. Et d'ailleurs, si on s'embrasse, lors de la cérémonie du mariage, c'est parce que dans les temps féodaux, on signait un contrat en s'embrassant. Le seigneur et le serf signaient des contrats en s'embrassant, etc. Et donc, si on s'embrasse lors de la cérémonie du mariage, c'est parce que tu signes un contrat avec l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a des témoins, c'est qu'en fait, c'était à une époque de l'oralité, qu'il fallait qu'il y ait des gens qui garantissent que tu étais bien marié et que tu allais garder le capital économique, quoi.
J'imagine des témoins comme des gamins de 5e, genre, ah, ils se sont embrassés, ah, ah, les amours.
Ça y est, c'est pour la vie.
Oh là, le truc horrible. Tu glisses sur une bise à une collègue, tout ça.
Oh non, on est mariés.
Oh zut, tant pis. Emménageons ensemble, mon appart toi, dans le tien, je suis.
Et bah, c'est une question pour vous deux. Il n'y a pas un moment quand vous avez... Parce que, alors du coup, full disclosure, j'ai jamais emménagé avec une meuf. J'ai jamais eu envie et je ne suis pas prêt d'en avoir envie pour d'autres raisons que l'engagement. Je pense être prêt à m'engager, mais je pense que je ne suis pas prêt à partager mon intimité avec quelqu'un ou je ne suis pas prêt à voir l'intimité de quelqu'un d'autre, parce que je trouve que c'est à partir de ce moment-là où on commence à perdre petit à petit le respect. Désolé Yann, c'est vraiment juste ma vision du monde, mais... et peut-être qu'elle est erronée et j'aimerais qu'elle change un jour, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais du coup, je n'ai jamais emménagé avec personne. Est-ce que vous n'êtes pas dit un moment après avoir emménagé, il n'y a pas eu un moment où vous dites « Ah merde, genre, je suis engagé dans le truc et il n'y a pas de marche arrière. »
Bah, juste moi, pour est-ce que t'as déjà habité en colocation?
Ouais, je suis en coloc là.
Ah, et du coup, ça te fait pas ça avec tes colocs?
Non, parce qu'ils sont... Enfin, ils font leur vie, quoi.
Ouais, ouais. Mais parce que moi, tu vois, j'ai une relation avec ma meuf qui est... elle est basée sur une relation de meilleur pote avant qu'on soit ensemble tous les deux. Donc, au final, moi, quand j'ai aménagé avec elle, ça s'est fait... très naturellement, ou comme quand t'aménages avec des colocs, quoi. Ou tu te dis, c'est cool, je vais pas être seul chez moi, et en plus, comme on est sur la même longueur d'onde, on va passer des soirées ensemble. Et après, j'aime bien avoir mes petits moments solo chez moi, mais j'apprends plus comme voilà mon bon pote aussi quand elle est là, et on a les mêmes envies. Donc non, il n'y a pas eu cette frontière qui s'est brisée. Non, moi je t'avoue que ça s'est fait...
Mais c'est marrant que le parallèle que tu fais, et je l'avais pas vu comme ça, donc merci, c'est que, en gros, moi, j'ai passé 10 ans, donc j'ai quitté l'appart familial quand j'étais très jeune, et ensuite, j'ai passé 10 ans tout seul dans le même studio. Là, il y a 5 mois, j'ai emménagé à Paris dans une grande coloc, on est 4, et moi, je m'étais dit, genre, jamais à 29 ans, je vais emménager dans une coloc après avoir vécu 10 ans, ça va être l'enfer, je vais pas le gérer et tout. Et en fait, ça se passe super bien. Et donc, du coup, peut-être que ça sera la même chose le jour où je vais emménager avec une meuf.
Bah, je te le souhaite.
Pas vu comme ça.
Et moi, du coup, pour le coup, j'ai moins ce côté coloc, mais c'est un autre pan qui, pour le coup, j'ai jamais regretté, en tout cas tant que je vivais avec, de m'être installé avec elle. Mais en fait, c'était juste qu'on, c'était tellement cool le début de notre relation et on s'aimait beaucoup et c'était très fusionnel pour le coup, que juste emménager ensemble, c'est passer encore plus de temps ensemble et c'est trop cool. J'en ai un super souvenir en fait. Parce que y a plus ces moments où tu te vois juste ponctuellement pour boire des verres, faire la soirée chez l'un, chez l'autre. Non, tu passes énormément de temps avec elle. Et si vraiment t'es fou amoureux, c'est la meilleure expérience. En tout cas, pendant un premier temps, mais c'est trop cool. T'es avec là dans tous les bons et les mauvais moments. Alors, tu découvres des nouvelles facettes et ça fait partie du truc aussi, tu vois. T'es pas tout le temps sur ton 31 comme ça serait le cas si t'es dans une relation plus de vie de célibataire, entre guillemets, où tu vas dater ta meuf pendant quelques temps. Tu la vois forcément, bah tu la vois quand elle est malade, tu la vois quand elle est pas d'humeur et tout, mais c'est que des petits moments que tu peux apprécier aussi, c'est nouveau quoi, et c'est très chouette. Enfin moi j'en ai un bon souvenir en tout cas. Puis au-delà de ça, il y avait un aspect aussi très économique, c'est que...
Moi, j'avoue, je le... Putain, tu pouvais t'arrêter là, c'était parfait.
Non, mais je me
suis dit... compris.
Est-ce que j'ai pas été trop canard avec mon ex? Si, alors du coup, il y avait
un... À quel moment?
Il y avait un côté très économique aussi, c'est qu'elle, elle vivait dans un petit studio. Moi, je vivais en coloc, mais dans un appart qui était dans un état très délabré. Et en fait, en vivant à deux, on avait une surface de ouf, un appartement dans le vieux Lyon, donc un quartier trop chouette, avec beaucoup de cachets, enfin... C'était génial, quoi. On se mettait royal, quoi. Sur juste le confort de vie, il était décuplé
tu
aussi.
Tu peux aller chercher le standing du dessus, quoi.
Ouais. Ouais, ouais, clairement.
Et Théo, tu disais, aujourd'hui, je vais prendre, enfin, je referai pas ce que j'ai fait avant, je prendrai plus mon temps avant d'emménager, etc. Quel est ton rapport avec l'engagement aujourd'hui, maintenant que t'as vécu cette longue relation d'engagement?
Alors, je pense que, déjà, je suis très particulier avec ces questions d'engagement, puisque j'ai tendance à très vite, mais très très vite me projeter, me faire des films. Vraiment, quand je dis que je tombe amoureux 3 fois par jour dans le métro, j'exagère à peine, quoi.
Mais c'est... ça veut dire quoi, se projeter?
Ça veut dire que, déjà, je pense que je suis facile à contenter en termes de relation. Enfin, c'est horrible à dire.
C'est pour ça qu'on est amis.
Non, mais je sublime tellement, les...
T'es un garçon facile?
Ouais, alors clairement. Je suis une petite chienne de garçon.
Alors ça, c'est pas très féministe.
C'est vrai. Pardon. Je suis un petit... Ouais, bah, bref.
Je suis un petit chien.
Je suis un humain.
Je suis un être anthropomorphique non genré.
Pas de galère. Et on marche sur des œufs.
On est bien.
On marche sur des coquilles d'œufs.
Oh, oh,
la belle running joke.
On jouit dessus.
Oh, j'avais vu, il me manquait un blanc d'œuf. Oh. Bon, bref, tout ça pour dire que j'ai tendance à sublimer tellement les qualités de mes partenaires que ça occulte complètement les défauts et c'est une balance complètement déséquilibrée. Et je pense sincèrement que la moindre fille avec qui ça se passe bien, genre pas trop mal, mais je suis capable de rester mes fois amoureux sans aucun souci très très longtemps. Mais vraiment très longtemps.
Ah, c'est incroyable.
Sans que les gens voient le problème. Enfin, que les gens me disent, mais je comprends pas ce qu'il faut avec lui et tout. Et moi, je suis bien. je suis très heureux, tu vois. Et du coup, il y a un peu ça. Et du coup, mon rapport à l'engagement, c'est que j'ai tendance à me projeter très vite. Effectivement, avec ma première copine, j'ai emménagé très rapidement. On a très vite soulevé des questions aussi de mariage, d'avoir des noms pour nos futurs gosses hypothétiques, mais pas tant que ça au final. Aujourd'hui, j'ai rien qui prouve que je ne serais pas capable de me retenir de m'emballer. Par contre, j'y mettrais de la bonne volonté de me dire « Ok, vas-y, je pense que même je me mettrais dans ma tête des sortes de checkpoints mentaux où je me dis « Ok, il faut au moins que je la connaisse depuis un an avant de pouvoir emménager avec elle, par exemple. » Je pense que j'essaierais de vraiment structurer ça et de prendre le temps de bien me poser et de pouvoir prendre du recul sur la relation, voilà.
Mais après, pour compléter ton engagement...
Ah, t'as un sourire trop malicieux, il
met dans la gueule. Il s'engage pas facilement uniquement qu'avec les meufs. C'est aussi, par exemple, Théo, quand il visite une ville, au bout de 2 heures, il te demande... Et il y a un Ikea ici
C'est véridique, c'est une très belle anecdote.
Mais je pense que t'as une bonne capacité à te projeter. Mais c'est pas vrai. Négatif pour moi, mais... Mais je pense pas que ce soit réduit aux relations amoureuses.
Et tu sais que ça me l'avait fait à Montpellier quand je suis allé chez Yann pour visiter. Effectivement, j'ai regardé les annonces immobilières. Et ça me l'a refait il y a 2 semaines quand je suis allé voir mon pote à Strasbourg. Et j'étais en mode, oh, c'est très bien. Et puis, c'est combien dans le petit centre, les apparts?
Et vous êtes super, t'as le spa là en plus.
Mais vraiment, ouais, mais merci. Je m'étais pas rendu compte à quel point ça dépassait d'autres choses.
Mais c'est vrai que des relations, c'est le reflet aussi d'un caractère plus grand, en fait, des caractéristiques plus grandes qu'on a dans nos rapports aux choses. Par exemple, moi, le truc qui prédomine dans mes rapports aux choses, c'est l'impermanence. Genre, je suis très content que les choses fluctuent en permanence. Et donc, du coup, je m'accroche jamais dans rien. C'est pour ça que je m'engage pas beaucoup. Mmh. Parce que je me dis, demain, ça peut complètement changer. Et c'est issu de mon expérience et de mon histoire familiale aussi. Il y a très peu de choses qui ont tenu dans ma famille. Donc, du coup, tu t'habitues à ce que les choses fluctuent. Donc, du coup, ouais, je conçois un peu les relations pareil. C'est vrai que ça s'inscrit dans un mouvement plus global. Donc, c'est rigolo de le souligner.
Et du coup, toi, tu te vois pas t'engager ou tu vois pas figer quelque chose dans le temps?
Non, alors, ouais, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'en parlais dans l'épisode avec Armen, premier amour pour la vie. Et en fait, j'ai du mal à m'engager. J'ai du mal à promettre des choses. Donc, aujourd'hui, je suis le mec le plus flippant à être en relation parce que, en gros, je fais des.
Je sais pas.
Non, mais vrai, alors, c'est pire que je sais pas, c'est que je fais des tautologies. psychologie. Genre, quand une meuf a besoin d'être rassurée en me disant, mais est-ce que tu t'engages avec moi? Enfin, elles disent pas ça comme ça, mais en gros, le message en suspens, c'est ça. Je dis, eh ben, on sera ensemble le temps qu'on sera ensemble.
C'est génial. Advienne que pourra.
Mais vraiment, et c'est la réponse que je donne. Et donc, du coup, c'est rassurant pour personne.
Mais et en plus, parce que moi aussi, je l'ai déjà fait, cette stratégie, de dire non, mais c'est hyper naturel, en fait, la seule constance dans la vie, c'est le changement, pourquoi en...
Ouais.
L'embobineur.
Et alors, voilà. Et donc, merci, très belle transition, c'est que, donc, moi, je pensais qu'il fallait garder l'impermanence, qu'il fallait que tout soit ouvert, fallait que je sois libre dans mes rapports et tout ça. Et j'ai rencontré une fille il y a 4 mois maintenant, enfin, on s'est mis ensemble il y a 4 mois, je l'ai rencontrée il y a à peu près 1 an. Et avec elle, on est resté dans un truc où ne qualifions pas le rapport. Elle a senti que pour moi, j'étais claustro et donc du coup, fallait pas qualifier le rapport. Elle, ça lui allait aussi d'expérimenter de nouvelles formes de relations avec moi. Et on a passé notre temps à s'engueuler pendant 4 mois. À être pas s'engueuler, genre, se crier dessus, mais vraiment pas d'accord, de pas être tendre. Moi, je m'engageais peu, j'étais très con des fois dans mes réactions où je lui disais, bah, je te dois rien. Enfin, et elle était assez maladroite aussi dans les formulations. On s'est posé plusieurs fois pour se dire, mais qu'est-ce qui va pas en fait? Est-ce qu'on s'entend pas fondamentalement? Et en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est que à force de pas vouloir qualifier la relation, de vouloir rester libre et tout, c'est le bordel en permanence. Et donc, on s'est posé pour cadrer la relation et de cadrer la liberté qu'on voulait en fait. Et donc aujourd'hui,
c'était une réunion assez formelle.
C'était formel autour d'un porto comme ça, avec des cigares, et on a signé un contrat parce qu'on s'est embrassé à la fin.
Oh.
Il y avait pas de cigares. Mais tout le reste est vrai.
Dans un...
Et c'était de la DSP.
Et on s'est pas embrassé.
Ouais. C'était pas embrassé.
Elle était pas là.
Tout seul, la main dans le froc.
Okay. Je me suis engagé
dans la rue.
Signe le contrat.
Qui s'embrasse la main dans le RERB. Bon, bref. Et en gros, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait entamer une espèce de relation libre. On n'a jamais dit qu'on faisait une relation libre, mais c'est à peu près la forme que ça prend. Ce qu'on a constaté, et elle a été très maligne sur ça, elle est partie, en gros, au lieu de partir du bordel qu'on essayait de structurer, elle est partie de nos besoins fondamentaux à chacun. Mmh. Et elle m'a dit, bah, moi, ce que j'ai vu chez toi, c'est que t'as besoin de liberté, t'as besoin que le champ des possibles reste ouvert, que t'as besoin de tenter des trucs si t'as envie de les tenter. Et que elle a besoin de sécurité émotionnelle, elle a besoin de sentir que je suis sa priorité d'un point de vue relationnel. Mmh. Et moi, le simple fait qu'elle me dise ça, ça m'a débloqué un truc dans le cerveau où en fait, depuis mes sentiments, c'est comme si j'avais laissé aller un barrage. Mmh. Genre, j'ai un déferlement de sentiments pour cette meuf. Et c'est une forme d'engagement en fait que je prends avec elle, qui est modelée à notre image à nous deux et qui me va complètement.
Et est-ce que t'as envie du, enfin, est-ce que j'ai l'impression que dans ce que tu racontes, tu pourrais limite avoir moins envie de faire d'autres expériences à côté que avant où tu te sentais un peu plus dans une prison, quoi.
Ouais, et au final, moi, mon ultime but dans ma volonté de me sentir libre, c'est de me sentir bien. Donc, si elle me propose un truc qui me va, au final, j'ai pas spécialement besoin de Ken partout.
C'est ça qui est trop drôle, c'est que c'est en fait, c'est comme les gamins qui font des bêtises pour contester les règles.
Ouais.
Toi, en fait, t'avais pas le droit de la tromper, donc t'étais tenté de le faire, et maintenant que t'as le droit de la tromper, t'y vois aucun intérêt presque. Quoi, c'est ce que
en fait j'étais très clair avec ça, hein, donc elle l'avait compris, je lui avais dit j'ai besoin pas spécialement d'aller voir ailleurs, mais j'ai besoin de savoir que je peux aller voir ailleurs.
Ouais, c'est ça, que la porte est ouverte, quoi.
Ouais,
c'est l'angoisse de la claustrophobie de voir toutes les...
T'es un chat en fait.
Ouais, c'est ça, genre, il faut que je miaule quand la porte est ouverte et fermée. Putain, c'est...
tu peux déjà... Non, les chats ils miaulent tout le temps.
C'est vrai.
Qu'elles soient ouvertes ou fermées, ils s'en battent.
Et que font les chèvres, Théo?
Ah oui, alors les chèvres, ils font...
Yeah. Ils sont adolescents. Yeah. C'est des chèvres qui font du yodel.
C'est adolescent.
Très bien. Merci pour ce.
Oh bah je vous en prie. Hein. C'était vraiment. J'ai senti que c'était l'espace pour
j'allais
partager.
J'allais taper par ton nom de famille.
Oh non.
L'anonymat qui tombe à l'eau.
Faudrait qu'on fasse très gaffe si on fait un podcast en live un jour, parce que le nombre de conneries qu'on peut lâcher.
Ouais,
hein.
Faudrait
qu'on se rende avant. Hein. Ouais.
Est-ce que ça vous va si on passe à un autre type d'engagement qui est celui des bébés, des poupous, des chachas, des chafinous?
Tout le monde a compris, j'espère.
Ah bah là, on parle des
de la
des
pédophilie. Ah non.
De l'arrivée de bébés là-dessus. Dans le couple. Voilà. Parce que
alors,
quand
on va faire un tour de table sur les prénoms.
Et ben, alors, merci pour cette excellente transition, parce que moi, je me suis noté une petite anecdote à ce sujet-là.
Moi, j'adore Théo.
Théo Junior.
Je me suis rendu compte que, bah, alors, du coup, comme je vous le disais, avec mon ex, on s'était projeté dans des noms de gamins et même des noms des... Même, tu sais, tu dis, tu veux avoir, ok, moi, je veux X nombre d'enfants, un garçon, un... je veux trois enfants, un de chaque. Ce genre de choses.
Ah, on n'est pas genré comme podcast, hein.
Et, je crois que ce sera des héritiers, putain.
Et je me suis rendu compte en écrivant qu'il fallait que je vous raconte cette anecdote, que c'était en fait tellement quelque chose d'engageant pour moi que d'avoir statué sur les prénoms de mes hypothétiques enfants avec ces personnes-là, que j'étais absolument pas prêt à les dire devant un micro ce soir. C'est comme si le fait d'avoir... en fait, c'est quelque chose de très intime que j'ai construit avec mon ex. J'en ai jamais parlé, je pense, ou peut-être bourré une fois ou deux, mais j'ai jamais dû vraiment lâcher tout à fait les prénoms de mes hypothétiques gosses. Parce que, et c'est aussi une forme d'engagement, même si la relation n'existe plus, quelque part, c'est quelque chose qu'on a vécu, qu'on a partagé, et ça nous appartient. Et je sais très bien que plus tard, quand j'aurai rencontré la femme de ma vie et que j'aurai des gosses avec elle, c'est hors de question que j'utilise un de ces deux prénoms, par exemple.
Et donc là, en exclusivité, Théo va nous dire ses deux prénoms.
Tartine et Tartine.
Florian et Yannette.
Tu peux le dire.
Mais oui, c'est sûr que c'est assez intime, mais ça doit être agent. Moi, je l'ai pas. Avec mon ex, j'avais pas abordé la question du nom des enfants. Mais du coup, t'as un peu cramé des noms que t'aimais bien quand même. Ça doit être un peu frustrant.
Ouais, complètement.
Non, parce qu'il y en a pas 10 000 que t'aimes
surtout
bien.
Surtout pour les mecs, c'est trop dur de trouver des plus jolis prénoms pour les mecs.
Ouais, ouais. Yann, Théo et Flo, je vois pas trop.
Ouais, ouais. Ou alors les trois en même temps.
C'est la...
Yann, Théo, Flo en un seul mot.
On fait une composée.
Et donc voilà, et je me suis rendu compte parce que en fait, avant d'enregistrer le podcast, je me disais je m'en bats les couilles, mais en fait, non, c'est mort. Et arrêtez de me dévisager, je donnerai pas les noms de mes futurs gosses qui viendront jamais, qui verront jamais le jour.
Oh, non, c'est un peu triste.
C'est un avortement psychologique ce que je viens de faire.
Et si la prochaine meuf, qui sera peut-être la femme de ta vie, te cite les noms que tu voulais.
Waouh, ce serait tellement ouf. Et bah, alors là, j'avoue que dans ce rare cas, je le ferai.
Et ce serait génial qu'elle te dise des prénoms, c'est pas les bons, et tu fais non.
Ah, t'as prononcé.
Presque. Vas-y, fais comme ça.
Elle te dit Julie, tu dis Éléonore, ouais, génial.
Pareil, je pensais à la même chose que toi.
Ouais, tu fais une petite douille à l'état civil. C'est ce genre. Oui, on va l'appeler Julie, y a pas de souci. Alors, oui, donc notre fille s'appelle
Julie.
Donc voilà, mais c'est vrai que cette question de... Je sais même pas comment c'est venu d'ailleurs. C'est marrant parce qu'on en parlait un peu en off avant le début de l'enregistrement, mais les engagements, c'est pas un instant T, quoi. Là, c'est pareil, je me souviens pas d'un moment où je l'ai regardé dans les yeux pour lui dire putain, comment un jour on aura des gosses, comment ils s'appelleront, ou tu vois, ce genre de truc. C'est quelque chose qui s'installe vraiment sur la durée, quoi. C'est ouf. Et il y a pas d'instant T où tu dis ok, bah elle aura mes gosses, tu vois.
Ouais. Après, enfin, ça vient souvent de l'autre partie aussi. Hein.
Ah ouais. Et ben moi, j'ai été, pour le coup, je pense que c'est venu des deux parties en même temps.
Ouais.
Vous parlez de parties, je comprends pas, on joue à quoi?
Bah, en marche, pardi.
Tu désignes... Ah ouais, je croyais un jeu d'anatomie, moi.
Ah non.
Je me demandais pourquoi. Podcast politique. les petits bébés, moi j'en suis vraiment pas là, donc je vais vraiment passer mon tour parce que clairement j'ai vu et j'aimerais bien qu'on invite mon frère, un de ces quatre, dans l'épisode, dans le podcast, confond les mots, dans le podcast parce que lui il a eu un gosse et j'ai vu à quel point ça change l'engagement, genre tu peux plus t'en aller après, genre c'est vraiment pour la vie.
Bah, tu peux essayer, mais il faut un grand congèle.
Moi ce que je dis, c'est 20 ans ferme. C'est 20 ans ferme, là, tu...
Ah, c'est pire, ouais.
Tu
ouais, mais
pars, c'est vrai que... et là, c'est pas le mariage ou... Non.
Ouais. Ah, c'est non, la pension alimentaire, quoi.
Ouais.
Il n'y a pas un moment où tu peux... Enfin, moi, je vois mon frère, il confie à mes parents de temps en temps, tu vois, mais c'est juste un week-end. Et c'est juste le week-end où tu dors ta race parce que genre, t'es déglingué, quoi.
Ouais.
Ah non, je peux pas. Non, vraiment, alors là, l'engagement, c'est vraiment trop... Je fais un blackout à chaque fois qu'on parle d'enfant. Trop loin pour moi.
Mais moi, c'est vraiment un sujet... vraiment un sujet du moment... Et en fait, par rapport à ma copine, elle a fait, j'ai l'impression, beaucoup d'efforts. Et ce qui est cool, c'est qu'elle a l'impression inverse, que c'est moi qui en fais beaucoup. Donc, c'est une bonne relation.
Bonne dynamique de couple.
Ouais.
Tout à fait. Bravo.
Et moi, je trouve qu'elle en fait beaucoup parce que Je l'ai pas encore demandé en mariage, ça fait 3 ans qu'elle gratte.
C'est bien parti en tout cas. Ah bon, t'as fini de chouiner là avec le mariage, tiens la voix, ta bague.
Non, jamais. Et j'y réfléchis tous les jours. Et les enfants, du coup, ça c'est pareil, c'est un sujet qui est sur le tapis depuis 1 an et demi, et tu sais qu'il traîne sur le coin de la table et qu'il va falloir, et de temps en temps il est mis en plat principal et du coup tu dois un peu en parler quoi.
Dès qu'il y a un blanc dans la conversation là.
Et quand il y a les copines qui commencent à être enceintes, là forcément il revient, c'est le menu du jour quoi. Et du coup moi je me dis je peux pas non plus éternellement, je fais un choix d'être avec elle veut absolument des enfants, moi dans le fond j'en veux aussi. Mais j'ai l'impression que je passerai jamais le cap de me dire c'est bon maintenant, c'est aujourd'hui. Et du coup, je me conditionne à un peu devenir papa quoi. Donc ça veut dire que je prends des témoignages de partout. Dès qu'il y en a un qui me dit ouais, putain, moi je suis nouveau papa, je fais ah ouais, alors comment tu le sens ? Je sais qu'avec Clément par exemple, un collègue, je me suis dit. Au dernier pot de départ, il faut absolument que je lui parle parce que je sais qu'il est papa et j'ai des informations à prendre. Quoi. Et je suis à la quête des bonnes expériences pour me rassurer et pour pas me dire, parce que moi dans ma tête c'est bon, je mets ma vie de côté pendant 20 ans, je m'occupe de ce truc-là alors que j'ai plein d'envies, plein de projets et c'est parti et ça m'angoisse un peu. Donc je suis un peu à la quête des bonnes expériences. D'ailleurs il y a un podcast, je dirais pas le nom mais qui existe là-dessus.
Et on peut faire la pub pour les collègues.
Ouais, tu peux dire le nom du podcast, de toute façon ils nous le rendront. Hein.
Il me semble que ça s'appelle Les Darons. Et
Et Les Darons, on va vous taguer, vous nous taguez en retour, hein, follow back. Ouais.
On vous aime Les Darons, mais seulement si vous nous aimez aussi.
Mais donc ouais, là je suis dans une dynamique d'engagement où j'essaye de me mettre dans les meilleures conditions et choper les bonnes expériences à droite à gauche pour me dire c'est possible, certains qui étaient dans le même état que moi, ils sont arrivés. Et des fois, quand je vois des papas un peu stylés dans la rue, genre ils font un peu skater et tout, je me dis « Ah ouais, putain, lui, il avait l'air cool avant, il a réussi à avoir des gosses. C'est dur que moi aussi, peut-être. » Mais moi, à l'inverse, genre j'adore les enfants, je peux jouer des heures avec eux, mais c'est le côté, en fait... Tu vois, CDI, quoi, c'est le contrat que tu peux pas rompre.
Ah ouais,
c'est tu peux pas dire, bon, bah là, c'est bon, 6 mois, c'était cool, je le reprends dans 6 mois.
Ouais. Bon, Simon, tu restes à la crèche un peu plus longtemps, genre 2-3 ans, allez hop.
Ouais, non, ouais, c'est
sois fort champion.
Et une autre forme d'engagement que je voulais peut-être aborder avec vous avant de passer aux engagements plus anecdotiques, c'est l'engagement du « je t'aime ».
Oh, mais quel bel engagement. Ouais. Oh, j'ai une super anecdote en plus.
Ça, c'est un saut dans le vide, ça.
Ah ouais. Saut de merde.
Le premier baiser aussi.
Le premier rosé avec un petit Ricard dans ma mère.
Putain, tu défonces les balances.
Moi aussi, j'aime pas les balances.
Le premier balance, madame la juge.
Les poucaves.
Les poucaves,
t'as fini dans le ciment. Je suis pas une poucave, madame.
Toi, tu vas finir dans le canal. Mais le premier rosé de la saison, c'est un engagement, ouais.
Parce que tu sais jamais comment va être le cru, quoi. C'est ce qu'on dit, c'est le saut dans le vide.
Alors, ma chérie, je t'aime. On est mariés, on a 3 enfants. Mais j'aimerais partager un rosé avec toi.
Est-ce que t'es d'accord?
Le premier baiser également, mais on a fait tout un épisode sur le sujet. Alors je sais pas.
Mais je parlais plus de. J'ai l'impression. C'est vrai que c'est des l'engagement quelque part, c'est un peu un saut dans le vide aussi. C'est toi qui demande un peu une demande en mariage. Ça doit être un. Enfin, souvent c'est convenu quand même. Mais c'est vrai que le je t'aime, c'est aussi. Ça peut être aussi un saut dans le vide. Quoi.
Et ouais. Et juste.
Parle-moi de je t'aime.
Alors moi j'en ai un hardcore. Allez. C'est une anecdote hardcore.
Moi ça va.
Donc du coup on commence par quoi?
Par le hardcore.
On adoucira avec ton histoire gentiment. Ouais, et donc du coup, moi j'ai du mal à... J'ai pas du mal à dire je t'aime en fait. Parce qu'en fait j'ai dû choisir vraiment les meufs avec qui je veux me mettre. Même si en fait j'ai du mal à m'engager avec elles, je sais que je tombe amoureux d'elles quand même, donc je finis par le dire. Parce que je suis honnête. Mais j'étais avec une meuf, comment on peut l'appeler? Vilaine. Non.
Si tu peux l'appeler vilaine, mais il faut dire le ton. Vilaine.
Vilaine. Non, elle a pas été vilaine, la pauvre.
Non, mais elle était vilaine.
Je vais l'appeler Crépuscule.
Oh,
c'est poétique, hein, c'est le podcast poétique. Le poète podcast.
Crécuscule. Le crécuscule.
C'est quand t'as des capuches blanches et que tu te réunis à la tombée du soleil.
Le crécuscule. Bon.
We are the night, je sais. Crécuscule.
Le Pokémon raciste. Attaque lynchage.
Bon. Ségrégation.
Attaque Rosa Parks.
Bon, ça suffit.
On s'arrête là.
Je suis plus là. Hein. Moi, j'ai rien dit.
Tu même les invités se désolidarisent. C'est que c'est mauvais signe.
Alors qu'il fait des saluts nazis avec sa main.
Arrête.
Nous aussi, on peut le faire. Hein.
Non, je montre un truc là.
Regarde la lune.
Il y a cette mouche là qui est très fixe.
Donc, avec Crépuscule.
On l'a choisi un autre nom. Rideau.
Donc, avec Crépuscule. Quand j'étais avec elle, je savais que c'était compliqué pour elle de s'engager. Ça l'était aussi pour moi. Je pense que j'ai été très amoureux d'elle parce qu'elle avait du mal à s'engager aussi. Et donc, du coup, je me sentais en sécurité de m'engager parce que quelque part, je me disais, si moi je m'engage, mais pas elle, quelque part, bah, je peux quand même m'échapper. Donc, du coup, j'ai quand même été de m'engager avec elle. Et au bout de 3 mois de relation, je lui ai dit que je l'aimais. J'étais convaincu qu'elle allait pas me répondre. Et elle m'a pas répondu. Donc, je lui ai dit, je t'aime. Elle a fait.
Elle a pouffé.
Oh là là.
Elle a fait. Ah, mais je suis pas prête à dire la même chose.
Oh, oh là là.
Donc, du coup, c'est pas grave, je l'ai pas dit pour que tu me répondes, je l'ai dit parce que je le pense. Et oh. C'était vrai, vraiment, ouais. C'était vrai. Sauf que ça a duré 3 mois de plus.
C'était quoi le contexte? Un resto ou...
Non, après une bonne baise.
Ok, d'accord.
Faut c'est pas faire ça. Beaucoup trop d'hormones dans le corps.
Je crois que je t'aime.
C'est pour ça qu'elle a pouffé. Non, par contre, elle a vraiment pouffé. C'est un des souvenirs les plus marquants. Mais parce qu'en fait, c'était trop de stress, je pense, pour elle. Genre, il y a eu trop de trucs qui s'est joué, donc je n'en ai pas trop voulu. Ce qui a été dur, par contre, c'est qu'au début, j'étais là, genre, pas de problème, je vais l'aimer vraiment de manière désintéressée. Et en fait, au bout de 3 mois, ça tue. Genre, tu dis je t'aime, elle fait, j'en suis pas encore là.
Il y a un décalage, quoi.
Au bout d'un moment, t'es, c'est trop dur. Mmh. Et le jour où elle m'a dit qu'elle m'aimait, et c'était la première fois de sa vie qu'elle disait à quelqu'un qu'elle l'aimait, ben, j'ai perdu intérêt pour elle.
Wow.
Et on s'est séparés un mois plus tard.
Ah ouais.
Très bien. Alors, du coup, ça m'a donné une deuxième anecdote en plus sur le je t'aime. Donc, je voulais commencer par celle-là parce qu'elle est dans la même veine. Genre, une des premières fois, je pense, où j'ai vraiment dit je t'aime à une fille en le pensant sans trop de risques, qui n'était pas genre un vieux JTM par SMS, tu vois. C'était avec une fille, il s'était rien passé, mais on parlait énormément par texto, mais genre vraiment, beaucoup, beaucoup. C'était un peu ambigu, on se dragouillait, mais sans plus. Et on avait fait un week-end, à l'époque, je devais être en troisième ou seconde, donc t'es assez jeune et c'est potentiellement, t'as pas vraiment eu l'habitude de dire je t'aime ou ce genre de choses. Et on avait passé un super week-end avec d'autres potes en vacances. Les premières vacances que tu fais entre potes, pour moi, c'est des souvenirs de ouf, tu vois. Et donc j'avais clairement envie de la pécho pendant ce week-end-là, je l'avais pas fait, j'avais un peu peur aussi de niquer le week-end, mais on était rentrés ensemble en train, et sur le quai de la gare, je lui avais dit, bah écoute, je t'aime, et donc là, elle a pas pouffé, elle a ri aux éclats, et elle a dit, haha, Théo, t'es vraiment trop drôle, elle m'a fait la bise, elle est partie.
Ouais.
Et là... Et là, je peux dire que j'étais pas humble.
Mais c'était une stratégie pour te friendzone ou je pense vraiment qu'elle a cru que c'était une blague?
Je pense que c'était une stratégie pour te friendzone.
Et toi, t'as fait genre, c'était une blague après?
Non, moi là, je te jure, franchement, j'ai rien dit. Quoi.
Il a senti la colique le long de sa jambe.
Ouais, c'est ça, la coulante.
Ah, oui, je déconne, bien sûr.
Ouais, c'était bien sûr. Décolle, regarde, je me chie dessus.
J'adore déconner en me chantant.
C'est ma blague, bref.
Sur les 4 gares, là, j'adore ça.
Il y en a qui peuvent pleurer sur commande, moi, je peux me chier dessus sur commande.
Regarde là, tu vois.
J'ai appris ça au conservatoire. Je suis très investi.
Du coup, c'est pas un conservatoire, ça s'appellerait un lâchatoire. Non. Okay.
Si, c'est pas mal.
Tu vois le trait d'esprit en tout cas. Il est là.
Donc, ouais. Du coup, l'opposé ce serait le constipatoire, quoi. Mais ça marche. tant pis.
Ça, c'est dur à apprendre, hein, je pense. Le parce que normalement, tu chies tout le temps et ça se voit, quoi. Et être constipé, ouais, c'est beaucoup plus dur.
Ah bah, ça pose problème pour les auditions. Bref. Mmh. Donc ça, c'était ma première anecdote sur le je t'aime un peu violent. Et ce qui est rigolo, c'est que ça m'a pas du tout traumatisé du je t'aime, bien au contraire.
Ça t'a libéré du je t'aime.
Bah alors, moi, j'ai un problème. Et ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure sur le côté de m'engager à fond, que ce soit pour les villes, pour les meufs. C'est que quand c'est une formulation que j'utilise tout le temps pour parler de, pour décrire mon rapport aux meufs, en fait, c'est que en 15 secondes, je sais très bien si je suis capable de tomber amoureux ou pas d'une fille. C'est pas que c'est un coup de foudre et que je tombe amoureux sur l'instant. C'est qu'en 15 secondes, je sais si, donner un certain nombre de temps où je fréquente cette personne, qu'on sorte ensemble ou qu'on se fréquente juste en tant qu'amis, je sais très bien qu'au bout d'un moment, je vais finir par tomber amoureux d'elle. Et ça, je le sais en 10 secondes, quoi.
10 secondes après juste après l'avoir connue.
Après une présentation, quoi. Ah ouais, c'est vraiment, assez ouf.
Non mais ouais, c'est vrai que...
C'est assez spontané.
Mais c'est aussi c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est qu'en gros, en te disant ça, tu te mets aussi dans les conditions de que ça soit de tomber amoureux, quoi.
Peut-être, clairement. Mais du coup, la conséquence de ça, c'est que souvent, j'en arrive à un point où le je t'aime, je le retiens, pour pas aller trop vite, sinon ça irait trop vite. Et d'ailleurs, alors à tous les peut-être les jeunes qui nous écoutent et qui se demandent à quel moment c'est le bon moment pour dire je t'aime, moi j'ai trouvé une formulation que je trouve très vraie et qui m'a toujours aidé à savoir quand dire je t'aime aux personnes, c'est que le bon moment pour dire je t'aime, c'est quand ça fait trop mal de pas le dire.
Quand ça te démange trop, quoi.
Voilà.
Ouais, ouais.
Et quand tu souffres de pas dire à quelqu'un que tu l'aimes.
Et c'est très juste, c'est ce que j'avais fait avec Crépuscule. Ne jamais dire je t'aime pendant qu'on baise, c'est très très important.
Ouais, tout cas, pas le premier.
Mais j'aime pas quand une meuf me dit qu'elle m'aime pendant qu'on fait l'amour pour
la première
fois.
Après, quand t'es, je trouve, avec la meuf depuis un certain temps, c'est un certain.
Le premier, pardon, je croyais que tu parlais de l'homme, pas le premier.
Le premier
homme. Tu vois, je reviens sur la religion. Mais d'accord, pas le premier ouais, voilà. Je t'aime. Voilà, oui, bien sûr. Ça. Après, tu peux le faire, oui.
Ouais. Oui. Mais c'est vrai que le premier, c'est clairement un restaurant, un bon restaurant avec un poulet basket. Enfin, il faut que ce soit un truc très installé. Un rituel.
J'ai jamais dit je t'aime sans poulet basket.
Ah ouais, non. Tu l'invites pas chez toi pour lui dire je t'aime.
C'est le poulet basket.
Oh waouh, je te poulet basket.
C'est une superbe transition, non pas le poulet basket, mais ce qu'on disait juste avant, sur ma deuxième anecdote, qui est celle du coup où j'ai dit je t'aime à mon ex, donc avec qui je suis resté quand même 5 ans et demi, donc c'était important.
C'était déjà ton ex, Démona. Tu lui as dit je t'aime.
Ouais. Arrête de l'appeler.
Ça sera toujours Démona.
Démonito.
Non, on avait dit quoi, moi
Démona.
Montagnette, c'était pas mal. Moi, j'aime bien
ouais, à chaque fois, tu changes de surnom, mais Démona. Ouais.
Oui. Et du coup, avec Montagnette, et pour le coup, c'est elle qui... Bah, c'est une anecdote un peu intime, mais tant pis. De toute façon, il y a eu des changements de nom et des surnoms, donc on brouille les pistes. Et en fait, elle, pour le coup, elle m'avait dit, je t'aime, pas la première fois qu'on couchait ensemble, mais une fois où on couchait ensemble, elle m'avait dit, je t'aime, tu vois. Et du coup, moi, j'étais pris de court et je savais de toute évidence que j'allais tomber amoureux de cette meuf incessamment sous peu. Donc, je lui ai dit, mais moi aussi, je t'aime. Et du coup, bon, franchement, c'était une super partie de jambes en l'air, du coup, avec toute l'explosion de sentiments. Et en fait, le lendemain, je crois, ou plus tard dans la journée, on mangeait ou on se faisait un resto. Et là, du coup, il n'y avait pas de poulet de basket, mais c'était très solennel, c'était un resto. Et elle me dit, elle était un peu gênée, elle me dit, elle commence sa phrase en me disant... Au fait, tu sais, à propos de ce que je t'ai dit tout à l'heure, là, j'aimerais bien le retirer.
Et après,
j'aimerais bien le retirer. Et du coup, moi, j'aurais été complètement con de dire, ah ouais, bah moi aussi, j'ai menti, tu vois. Donc, j'ai maintenu mon jeton, j'ai dit, bon, écoute, ça viendra quand ça viendra, mais je me suis grillé, tu vois, je me suis fait avoir.
Elle a
retiré son je t'aime.
Ouais. Ah ouais. C'est possible, ça? Est-ce que c'est...
Non, alors ça, c'est comme...
La carte joker retirée n'existe
ça, non,
pas, je
ça
crois.
Ça n'existe pas, tu fais pas opposition à ton je t'aime, quoi.
Ouais, mais après, si c'est un je t'aime dit sous le coup des hormones de... Enfin, je
ouais,
peux comprendre
mais
aussi.
Tu vois, tu peux dire, j'ai parlé un peu vite, j'en suis peut-être pas là, mais dire je le retire, tu vois.
Ouais, ouais, elle a vraiment dit je le retire, mais elle avait
c'est,
pas beaucoup de tact.
C'est gore,
c'était,
quoi.
C'était rigolo aussi, du coup. De la même façon que j'ai une très bonne formulation pour savoir quand il faut dire je t'aime, j'ai une très bonne formulation pour esquiver discrètement les moments où t'as pas envie de dire je t'aime et on te dit je t'aime.
Allô, maman?
Non, mais okay. Juste tu dis...
Comment?
Moi, j'aime... passer du temps avec toi.
Ou alors, ouais, ça t'en a pas mal. Hein. T'as aussi... Ouais, moi aussi, je crois.
Ah, pas mal. Il est propre, je crois. Mais le je crois, Il est trop facilement
retournable. Il est assez innocent, je crois.
Ou alors juste, ah, ça me fait trop plaisir, et tu l'embrasses.
Ouais.
Moi aussi, je tiens à toi.
Ouais, mmh. Ouais. Oh, ou truc. Alors, t'as le... la version SS-117, ouais, moi aussi, je m'aime.
Ça, elle est technique à caler, ouais. Mais elle est propre.
Ouais.
Très bien. Et toi, Yann, du coup, t'as des petites anecdotes de Je t'aime à partager ?
J'ai pas trop d'anecdotes de Je t'aime, j'en souviens plus trop de mes premiers Je t'aime. Après, j'ai l'impression que mes premiers Je t'aime, c'était surtout des moi aussi. Mais.
Alors, ça, juste qu'on soit clair, c'est moi aussi je t'aime, pas juste moi aussi. C'est,
oui,
c'est
oui, bien sûr, moi voilà. aussi je t'aime.
Voilà.
Le câlin,
ma chérie d'amour, répète après sûr. Moi.
Vas-y, j'écoute.
Vas-y, moi aussi je t'aime, ma chérie d'amour.
Alors, moi, c'est ma douceur.
D'accord, moi aussi je t'aime, ma douceur.
Voilà.
Vas-y,
et moi aussi je t'aime, ma Non, je vais pas le dire à l'antenne quand même.
Fort bien, est-ce que ça vous va si on passe à la deuxième partie qui sont les engagements anecdotiques de la doute
plutôt deux fois qu'une, mon cher Florian, allez, c'est parti.
Ok.
Attends.
Alors, d'abord, c'est l'heure du refill et je referai mon introduction parce que je me suis coupé en pleine phrase tout seul. Est-ce qu'on se trinquerait pas? Ça fait longtemps qu'on s'est pas trinqué.
Oh,
allez, allez.
Qu'on peut... Moi, je allez
à l'engagement.
Aussi.
À la vôtre.
Ah.
Vous êtes frère?
On est frère de. Ah, c'est bon, Martini. Moi, j'aime bien Martini.
Ouais, ouais, moi aussi. Puis j'avais dit que je buvais pas ce soir, donc c'est bon.
On devrait se faire ça.
Quelle bonne idée. Ouais, j'aime ça.
Merci d'avoir écouté cet épisode. On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Ça compte beaucoup pour nous.
De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce.
Merci beaucoup, à la prochaine.
Bisous.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.